Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Mancier.
Bien bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Périgord littéraire. Alors cette semaine, nous allons retrouver Serge Paco et son livre « Femmes d'autrefois en Nouvelle-Aquitaine ». Voilà, nous sommes des Aquitains, parce que nous sommes nouveaux, mais nous sommes des Aquitains. Alors, Serge Paco, je préciserai qu'il est né à Bordeaux en 1950, il est d'origine landaise, d'après une carrière dans la fonction publique, il est l'auteur de nombreux livres sur l'Aquitaine. Il a écrit entre autres Biarritz, Bayonne, Bordeaux, le Béarn des Landes, Saint-Gerdelus, etc. Et bien sûr, Femmes d'autrefois, Nouvelle-Aquitaine, publié en 2019 par les éditions La Geste. Ce livre s'intéresse à une quarantaine de femmes aquitaines, plus ou moins célèbres. Alors, une des plus anciennes femmes évoquées à ce micro est Placidie d'Aquitaine, née en 388, décédée en 450, vivant pratiquement à la chute de l'Empire romain. Et Adélaïde d'Aquitaine, née en 945 et morte en 1006, devenue reine de notre région actuelle. Alors cette semaine, on passera à l'Ordre d'Aquitaine, dont on a déjà parlé, pour évoquer la mythique Clémence Isaure d'Occitanie, créatrice des Jeux Foraux de Toulouse. Alors, on va voir un peu ce qu'on nous dit de cette femme, alors, Clémence Isaure d'Occitanie, 1450-1500, l'amour de l'âme et de l'esprit reste plus fort que celui des corps. Et on ne sait pas, en réalité, si elle a réellement existé ou pas. Alors, voilà ce que nous dit ce texte, de même que nous débutâmes l'ouvrage par l'évocation d'une série de jeunes femmes qualifiées de saintes dans le martyrologe chrétien et de par le fait suspecté de ne pas avoir existé, du moins comme l'indiquent les écrits que l'on en rapporta bien des siècles après. Nous permettons de clore le sujet nous remémorant une fille de Languedoc d'une virginité radicale également qui possède doubles désavantages, celui d'avoir eu une existence improbable et de plus ne pas être fille d'Aquitaine. La province inventa l'art des troubadours, surtout la façon d'appréhender dans les chansons et les fictions l'amour courtois, le fin amour, le gai savoir et la joie de l'esprit propre à enjôler les damoiselles et les gentes dames. Le scientifique Guillaume IX, grand-père d'Aliénor d'Aquitaine, fut le premier d'entre eux. Ainsi nous apparut-il naturel de nous pencher sur le destin d'une jeune femme sûrement fantasmée qui représente la filiation intellectuelle de ce que l'Aquitaine a produit de meilleur dans le domaine des arts, comme les esprits forts et les béotiens de toute espèce et de toute condition, nous ne prétendons pas authentique l'existence alléguée de cette admirable femme, mais nous en affirmons la matérialité, la nature, l'exactitude, le dogme. Nous laissons dans l'erreur les prétendus érudits prompts à ne pas croire l'évidence, à s'inventer et à persister dans leur sombre erreur. Il est ennuyeux de réfuter leurs pauvres arguments. Adèle Jarry de Mancy, tint la chronique exacte de la vie et de l'œuvre de Clémence Isaure dans une notice publiée au milieu du XIXe siècle, dont, à travers les décennies qui nous séparent, nous la remercions très humblement. Voilà, alors, cette dame, Adèle Jarry de Mancy, est une femme, elle est peintre, elle est auteure du dessin de plusieurs livres, du dessin d'après nature et sans maître, et le dessin, la perspective simplifiée. Alors son monument, qui se trouve dans l'est de la France, son monument funéraire, comme je disais, en forme de pyramide, est une curiosité à voir. Donc si vous passez dans l'est, vous pouvez toujours aller la voir. Alors je reprends un peu la lecture de ce livre. Les chroniques explicites en effet, la réalité exacte des Jeux Floraux inventés pour complaire aux jeunes filles de bonnes réflexions et aux nobles dames énamourées, mais aussi pour satisfaire les troubadours dont le destin se délitait. Après la mort d'Alphonse de Poitiers, frère du roi Saint-Louis, les domaines de Toulouse furent réunis à la couronne de France. C'en était fini de la puissance politique de la province afin de compenser sa relative déchéance. elle se targua de ses capacités littéraires. Dans le même mouvement, on forma une sorte d'académie qui invita les poètes troubadours et troubérites. Alors, troubérites sont les femmes troubadours. Un concours solennel de manière à garder en mémoire les mérites de l'amour courtois initialisé au début du XIIe siècle. Le premier eut lieu en 1323, le mardi après la Toussaint. La compétition produisit un grand effet de toutes les parties du Languedoc, de la Gascogne, de la Guyenne et bien sûr d'Aquitaine. Alors les grands seigneurs, les théologiens, les érudits, les dames surtout voulurent assister l'année suivante à cette célébration des Jeux poétiques. Le noble consistoire des troubadours tint sa séance le 1er mai 1324 dans un verger situé au faubourg des Augustines, un jardin merveilleux et beau pour permettre de restituer les sables inflexions de la pensée enchantée. Voilà, tout un programme. Alors, on recueillit d'abord les vers et les compositions que dictaient les concurrents, puis dès le second jour, les juges entendirent une messe avant de débattre du mérite de chaque pièce. 12 croyances de ce temps qui voulaient que dans les récréations même de l'esprit, la piété fut toujours la compagne du savoir et du génie. Enfin, le troisième jour, fête de la Sainte Croix, une assemblée solennelle décerna la joie de la violette. Désormais, chaque année se déroula la majeure compétition. Les capitouls de Toulouse assistaient à la cour plénière des 7 mainteneurs d'Hugues-Savoir. Ces magistrats municipaux furent si émerveillés de l'éclat de cette fête littéraire qu'en sortant de la séance après la célébration du conseil de la cité, décidèrent que la violette serait à l'avenir payée sur les revenus de la commune. Les Aquitaines par là, le titre désormais attaché à leur charge de francs et libéraux patrons de la fête des fleurs. Le rendez-vous culturel appelait une foule de rivaux à se disputer la violette qui devait un des symboles majeurs de la cité. Ils ont senti le besoin d'ajouter 2 autres prix, l'églantine et souci avec leur spécificité remarquable. Les 3 reines florales devinrent le sel de la bonne pensée récompensée. Voilà. Alors c'est tout un programme. Alors, bien sûr, il y a une suite, mais il y a une suite que je vais vous donner. L'histoire de Clément Cizor ne peut se dissocier de celle des Jeux floraux. Elle figurera la mer méridionale, enfin libre des contacts délétères de l'étranger, pour se consacrer à l'art troubadouresque, le seul capable d'instiller les ferments de l'amour dans le cœur endurci des chevaliers. La fleur d'or à la main et une douce cantilène à la lèvre, la noble Toulousaine vint ranimer par son exemple et par le don à l'éternité de ses appâts l'enthousiasme des poètes et le génie des arts issus de l'antique race des comtes de Toulouse, éteint à la suite des contingentes liées aux croisades contre les Abégeois puis à la malignité de la maison de France. Clément se naquit dans la cité toulousaine en l'an 1450 sous le règne de notre sire Charles VII. Alors que le royaume n'était pas encore définitivement débarrassé de la lèpre anglaise, ses chants de douleur et des bienfaits sont les seuls événements connus de son existence. Hormis quelques faits évasifs qui restent empreints de mystère, cependant n'avait-elle pas dans les veines le même sang que son aïeul, le chevalier Anselme d'Isargier, qui voyagea en Afrique pour épouser une princesse noire de l'Empire Songhaï. Alors, on va passer un peu plus loin, voilà ce qu'on nous dit également. Alors seulement, Clément Cizor cultivait en son jardin secret la poésie, son art était si consommé et les vers produits si avantageux qu'une décennie après son décès, on en vint dans la noble cité à publier ses œuvres sous la forme d'un livret portant le titre « Dicta de Dona Clemensa Ezo ». 2 exemplaires seulement survécurent de l'édition originale, se composaient en partie de 2 parties, d'abord des cansous, constituées d'ordres plaintives et des pastourelles, dont la dernière pièce fut intitulée par la magie de son auteur « La plainte de l'amour ». Alors voici les premières strophes de ce poème. Au sein des bois, la colombe amoureuse murmure en paix ses longs et doux accents. Sur nos coteaux, la fauvette orgueilleuse va célébrer le retour du printemps. hélas, moi, plaintive solitaire, moi qui n'ai su qu'aimer et que souffrir, je dois au monde extase étrangère pleurer mes mots et les redire et mourir. Voilà, c'est pas très gai. Alors, il y a eu bien sûr plusieurs textes là-dessus. Alors voici un des derniers. Après ces siècles écoulés, il ne fallait rien moins que la révolution républicaine de France, rivalisant avec la peste de 1484, pour interrompre la célébration des Jeux floraux, qui ne furent rétablis comme institution municipale que sous le règne de Napoléon Ier en 1806. Les hommes de 1793 voulaient être des esprits forts à leur manière, trop patriotes et trop sincères pour la proscrire en traitant la jeune femme d'aristocrate. Bien alors à la guillotine. Des tables de bronze furent commandées et livrées au fondeur qui eut ordre de la transformer en grenouille païenne pour la porte Saint-Michel. L'honnête artisan désigné en y substituant notre bronze sauva au risque de sa vie la précieuse inscription. C'était un signe habitant de cette noble municipalité de Toulouse qui ne sera pas du moins accusé d'avoir donné aux villes françaises exemple de l'ingratitude et de l'indifférence envers les auteurs des fondations utiles. Depuis, pour la centaine de milliers d'âmes de la cité et des environs, ce fut et ce reste une tradition sacrée, une religion des familles, que le culte voué à Clémence Isaure, la jolie et vierge bienfaitrice de la commune, rénovatrice des Jeux floraux. Néanmoins, gardez-vous, subtil docteur en érudition, d'aller exposer aux Toulousains vos doutes et vos scepticismes. Ne leur proposez pas de tenter de renier la foi de leur aïeul, vous seriez très mal reçu. Voilà, alors, pour Clémence Isaure, je rappellerai que à Paris, ben, ma foi, on allait tous les ans, les occitanistes allaient tous les ans déposer une gerbe au pied de la statue de Clémence Isaure. Alors, répartis sur la terrasse d'est à ouest, au jardin du Luxembourg, les 20 statues qui composent le groupe des reines de France et femmes illustres ont été commandées dans les années 1840 à la suite d'une plainte du duc de Cazes concernant l'inconvenance des statues qui ornaient le jardin. Alors, la plupart de ces femmes remarquables sont issues de l'aristocratie régnante, à l'exception, bien sûr, comme on vient de le voir, de Clémence Isaure, qui, à la fin du XVe siècle, comme on l'a déjà dit, créa les Jeux floraux. Alors, exécutées par différents sculpteurs dans la seconde moitié du XIXe siècle, ces statues sont essentiellement de style académique. Le choix d'un groupe entièrement féminin était assez audacieux pour l'époque. Alors, comme je disais au début, mais tous les ans, les Occitans déposent une gerbe au pied de la statue. Et j'ai avec plaisir représenté le Périgord. Au cours de cette cérémonie, en sont dits des textes référant, bien sûr, à Clémence Isaure et de son époque. Alors, il y a, à la fin de ce livre de Serge Pacaud, il y a la balade des vicomtesses montoises du temps jadis. Bien sûr, c'est la poésie que l'on connaît. Alors, dites-moi, où, en quel pays est Constance Belle Aquitaine, Marguerite de Navarre, oui, qui fut sa sœurette germaine, écho parlant comme bruit au mène de Soumidouze, et sur étant qui est beauté beaucoup plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan? Où est la sage jeune fille pour qui Châtier fut et puis moindre un cordelier de notre ville, pour son amour eut cette avoine pareillement? Où est l'épouse qui espéra que mon Montluc blanc fut jeté en sac dans la Douze, mais où sont les neiges d'antan? Où sont enterrées les vicomtesses dame Béatrice de Bigorre, Marguerite de Moncade, est-ce Jeanne d'Arthez et Aliénor, Mabille, Isabelle, la reine, Pétronille, Marthe, vraiment, des beautés plus qu'humaines, mais où sont les neiges d'antan? Voilà, prince recherché cette semaine, où elles sont nées de 7 ans, que ce refrain vous souvienne, mais où sont les neiges d'antan? Voilà, Eh bien, je crois que j'en ai terminé pour cette semaine et rendez-vous, bien ma foi, à la semaine prochaine.
C'était Périgord Littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.